Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Les gens ne savent pas c'est quoi la croix. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire être sauvé. Les gens ne connaissent pas. On ne connaît pas le Seigneur. On ne le connaît pas. On va à l'église tous les dimanches, mais on ne le connaît pas. Et je disais à ma femme ce matin, j'ai un message à dire et je n'ai pas arrêté de pleurer. C'est la seule fois, depuis que je suis converti à Christ, c'est la seule fois où j'ai autant pleuré en préparant un message. Autrement dit, je ne pouvais même pas arriver à la fin. Je ne savais même pas comment méditer. Je ne faisais que pleurer et pleurer et pleurer et pleurer. Je n'arrivais même pas à étudier. Je n'arrivais pas. Et je n'ai même pas parlé à Yvan. Je n'ai rien dit à Yvan. Je ne savais même pas qu'ils allaient chanter Amazing Grace. Je ne savais même pas qu'ils allaient chanter tout ça. Je disais seulement, Seigneur, comment je vais faire pour dire ce que tu veux que je dise? Parce que je n'en ai jamais parlé. Je ne comprends pas tout moi-même. Je ne peux pas expliquer. Mais je te demande, s'il te plaît, de parler au cœur. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, je ne veux pas que tu fasses attention à moi ou à mon état. Je veux seulement que tu comprennes que le message que j'ai à dire est un message qui est difficile. Et je ne sais pas comment le dire. Dites Amen. Alors, si vous voyez que je suis en train de... C'est parce que ça me dépasse. Je tiens à vous dire que je pense de tout mon cœur qu'il n'y a aucun enseignement, aucune prédication qu'on peut donner pour expliquer l'amour de Dieu. Aucune. C'est pas possible. On va prendre nos Bibles. On va tourner, on va lire beaucoup de passages ce matin. Juste parce que je vais simplement faire asseoir les choses. Jérémie chapitre 25, verset 15. Jérémie chapitre 25. Jérémie 25, verset 15. Je vais lire. Car... Si vous avez trouvé, dites Amen. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de la colère. Et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Dieu dit à Jérémie, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à ces nations, fais-la boire à ces peuples, fais-la boire à ce monde, fais-la boire à ces enfants qui ont tous désobéi, fais-la boire à ces gens. Dites Amen. On va aller dans Ésaïe, juste avant Jérémie, au chapitre 51, verset 17. Ésaïe 51, le chapitre juste avant Jérémie, verset 17. Il est écrit, réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem, toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de la colère, qui a bu, qui a sucé jusqu'à l'ultime goutte la coupe d'étourdissement. Réveille-toi, réveille-toi, Jérusalem, lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie la coupe étourdissement. Au verset 22, ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Verset 22, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Dites Amen. On va aller dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples. Il leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le bat de verge et le crucifie. Et le troisième jour, il ressuscitera. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Ils le battront de verge. Et ils vont le crucifier. C'est Jésus qui dit ça. Il prévient ses disciples en ce qui le concerne. Il sait qu'ils vont le condamner à mort. Il sait qu'ils vont le livrer aux païens comme un chien. Il sait qu'ils vont se moquer de lui. Ils vont rire de lui. Il sait qu'ils vont le battre avec des verges. Il le sait. Verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Verset 22. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Comme si c'était le moment. Il vient de leur dire, « Le Fils de l'homme va être livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils vont le condamner à mort. Ils vont me condamner à mort. Ils vont me livrer aux païens. Ils vont se moquer de moi. Ils vont me frapper. Ils vont rire de moi. Ils vont me crucifier. Comme un brigand, comme un bandit. » Et elle ose être hors sujet. Elle ose faire preuve d'un peu d'orgueil encore à ce niveau-là. Elle ose faire preuve d'arrogance, de fierté. Permets que mon fils, mes deux fils, un soit à ta gauche, un soit à ta droite. Et la réponse du Seigneur est simple. Vous ne savez même pas ce que vous demandez. Est-ce que tu peux boire de cette coupe que je dois boire? Est-ce que tu peux boire de cette coupe? On va aller dans l'évangile de Jean maintenant, Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 20. À partir du verset 20. Quelques Grecs, verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme, » il n'a pas dit le Fils de Dieu, il a dit le Fils de l'homme, le Dieu qui est manifesté en chair, le Dieu qui est manifesté en chair, l'être humain, le Dieu là qui est dans l'être humain, doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 27. Maintenant mon âme est troublée. Maintenant je suis angoissé. Maintenant je suis stressé. Maintenant je suis extrêmement angoissé. J'ai peur. Et que dirais-je? Devrais-je dire, Père, délivre-moi de cette heure. Délivre-moi de cet instant. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela. Je ne peux pas dire, Père, délivre-moi. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et là, il parle alors qu'on n'est même pas encore arrivé. On n'est même pas encore arrivé dans le jardin de Gethsémané. On n'y est pas encore. Jésus sait ce qui va lui arriver. Il sait pourquoi il est venu. Il dit, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. C'est pour ça que je suis venu, pour mourir. Pour mourir. Comme un chien. Pour mourir. Verset 28, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant. Le prince de ce monde, le prince des ténèbres, le diable, les puissances démoniaques, les puissances du mal, les chefs dominateurs du mal seront jetés dehors. Ils seront expulsés. Maintenant, c'est l'heure. Le jugement de ce monde a lieu maintenant, dit Jésus. Dit Amen. Le jugement de ce monde a lieu maintenant. Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le Seigneur m'a dit ce matin, tu parles de l'essentiel. Tu parles du pourquoi nous sommes là, de pourquoi la croix. Beaucoup, malheureusement, ne savent même pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je vous ai fait lire Esaïe, je vous ai fait lire Jérémie d'abord, chapitre 25, où Dieu, dans l'Ancien Testament, parle de la coupe du vin de sa colère. Où Dieu dit simplement que toute sa colère, il la déverse dans une coupe. La raison pour laquelle Dieu a détruit Sodome et Gomorre, ce n'était pas parce que Sodome et Gomorre péchaient. Ce n'était pas parce qu'il voulait détruire la race humaine, non. C'est parce que Sodome et Gomorre avaient atteint le niveau de saturation. La coupe était pleine. La raison pour laquelle Dieu a détruit une bonne partie de la terre, ou plutôt a plongé la terre dans le déluge, autant que vous pouvez, c'est parce que là encore l'iniquité des hommes était grande sur toute la terre. C'est parce qu'il y avait saturation. La coupe était pleine. La coupe était pleine. Mais Dieu parle depuis l'Ancien Testament, depuis les temps anciens, Dieu parle d'une coupe de sa colère. Une coupe de sa colère. Il parle d'une coupe qui est particulière. À chaque fois, c'est vrai, quand Israël a péché, et quand il parlait à Jérémie, lorsqu'il parlait à Esaïe, il leur disait, c'était au temps de Nebuchadnezzar, il leur disait, vous avez tellement péché, vous êtes tellement devenus rebelles, vous n'avez pas écouté, je vous ai envoyé mes prophètes, je vous ai envoyé mes serviteurs, vous les avez massacrés, vous les avez lapidés, vous avez tout fait, tout ce qu'il ne fallait pas faire, vous l'avez fait, vous, les bergers de la maison d'Israël, vous les pasteurs, vous les responsables, vous les brebis, vous avez tout saccagé, mon peuple est détruit, parce qu'il n'a pas la connaissance, mon peuple est saccagé, mon peuple est démoli, et comme un père qui voit ses enfants se déchirer, s'entretuer, il a mal, il souffre. Il dit, Esaïe parle, envoie un prophète, il prend le prophète, il tue le prophète. Envoie le prophète, il prend le prophète, il décapite le prophète. Envoie un autre serviteur, il prend le serviteur, il décapite le serviteur. Et ils n'ont pas arrêté. Et plus ils le font, plus Dieu sévit, plus Dieu punit, plus Dieu juge. Et quand ils le font, ils amènent les sacrifices. Oh, pardonne-moi mon père parce que j'ai péché. Ah, je te pardonne parce que tu as péché. Oh, pardon Seigneur parce que j'ai péché. Oh, sacrifice d'action de grâce, sacrifice de reconnaissance, sacrifice de péché, sacrifice d'holocauste, toutes sortes de choses. Ils ont fait des sacrifices. Moïse a institué la loi, ils ont fait des sacrifices. Mais Dieu a toujours mal parce que sa coupe est toujours remplie de la colère. Il juge le péché, oui, mais la coupe est remplie de la colère. Et lorsque les Israélites, pendant le jour de Yom Kippour, le jour des expiations, ils arrivent avec le souverain sacrificateur qui rentre une fois par an dans le tabernacle, dans le temple de Dieu, pour offrir un sacrifice pour les péchés. Il couvre les péchés. Il cache les péchés. Amen. Il couvre les péchés, c'est vrai. Mais Dieu n'est toujours pas satisfait. Parce que sa coupe est pleine, mon frère. Et sa coupe est pleine. Et le problème, c'est que la nature de l'homme est pécheresse depuis que Adam, dans le jardin d'Éden, a transgressé. Ce n'est pas une affaire de fruits. Parfois, j'entends des bêtises, des polémiques qui ne savent rien du tout. Qu'est-ce que c'était le fruit? Quel fruit c'était? C'est pas ça le problème. Le problème, faut comprendre le principe. Le principe, c'est quelqu'un qui a désobéi à la parole de l'Éternel. Voilà la vérité. Ce n'est pas une affaire de fruits. Oh, il a mangé de fruits, il n'a pas mangé de fruits. Quel fruit c'était? Quel arbre? Oh, non, mon frère. C'est quelqu'un qui a désobéi comme tu fais toi tous les jours. Il a désobéi à la parole. Il a été frappé. Et à cause de ça, nous tous sommes devenus pécheurs de nature. Amen. Alors le problème de Dieu, même quand on venait faire les sacrifices, le jour du Yom Kippour, le jour des expiations, très bien, on est pardonné, mais Dieu dit, les péchés sont couverts. Et pour vous qui connaissez un peu, vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle le bouc émissaire. Lorsque le souverain sacrificateur offrait le sacrifice, il prenait un agneau, il le sacrifiait, il le mettait sur l'autel. Mais de l'autre côté, il prenait un bouc et posait la main sur le bouc et il transférait toutes les malédictions, tous les péchés de tout le peuple d'Israël. Il imposait la main sur un agneau. Et il transférait sur lui toutes les malédictions, tout le malheur. C'était transfert sur lui. Amen. Et ce bouc-là était chassé dans la forêt. Parce qu'il partait avec le péché de tout le peuple. C'était simplement une figure. C'était simplement une image des choses qui allaient venir depuis les temps anciens. Je ne vais pas vous donner tous les passages où on parle de la coupe de la colère. Apocalypse chapitre 15, verset 7. Dieu parle d'une coupe, des sept coupes de la colère de Dieu. Mon frère, je t'en supplie, ma soeur, écoute-moi ce matin. Vous allez à l'église, vous ne comprenez pas pourquoi vous allez à l'église. Je ne vais pas à l'église pour chanter. Non, on ne va pas à l'église pour chanter. Je ne peux pas croire que quelqu'un en ait besoin de lui dire d'adorer parce qu'il n'a pas compris ce que ça veut dire adorer Dieu. Il n'a pas compris ce que ça veut dire glorifier Dieu. Il n'a même pas compris qui est Jésus. Il vient, Jésus est mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il ne sait même pas ce qu'il chante. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il n'a aucune révélation de ce qu'il est en train de dire. Oui, Jésus m'a sauvé. Mais tu ne comprends pas ce qu'il a fait. Tu ne comprends pas qui il Et tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris encore. Alors, le Seigneur a parlé. À bien des reprises, bien des moments, Dieu parle de sa coupe. Il dit à Jacques et à Jean, les fils des Zébédée, qui ont poussé leur mère à venir demander quelque chose. Vous ne savez même pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire de la coupe que je vais boire? Alors Jésus sait. La semaine dernière, on était dans le jardin de Gethsémané. Matthieu chapitre 26. Et Jésus savait déjà. Je vous ai montré tous ces passages pour vous montrer qu'il savait ce qui allait lui arriver. Il le savait. Il allait le battre. Il savait qu'on allait l'insulter. Il savait qu'on allait le crucifier. Il le savait. Dites Amen. Il n'était pas surpris. Il est venu pour cela. Alors, qui est ce Jésus-là? Que les Juifs n'ont pas su reconnaître, que même le monde aujourd'hui ne reconnaît toujours pas. Qui est ce Jésus? Ils vont vous la dire la dernière fois. L'incarnation de Dieu en chair. Pour vous qui ne le savez pas, je tiens à vous dire que la première alliance mentionnée dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était l'alliance de Dieu avec Abraham. La première véritable alliance. Le mot alliance en hébreu vient d'un mot grec et d'un mot hébreu qui veut dire brit ou birit. Birit est un mot qui veut dire, on ne dit pas le mot birit lorsque Israël a fait l'alliance, ce qu'on appelle communément le Nouveau Testament, sur la montagne du Sinaï. On ne dit pas, la Bible ne dit pas que ça, ils ont fait ce qu'on appelle un birit. Non, birit veut dire couper. Birit veut dire couper. Birit veut dire couper. Couper quoi? Une alliance. Et lorsque Israël s'est planté sur la montagne du Sinaï pour avoir les 10 commandements et 113 autres commandements, il n'était pas question de birit. On appelle ça Ancien Testament ou Ancienne Alliance, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça la véritable alliance, mon frère, ma sœur. La véritable alliance, c'est celle que Dieu a conclue, a coupé avec un homme qu'on appelait Abraham, dans Genèse chapitre 15. Dieu vient voir Abraham. Ce n'est pas le but aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur l'alliance. Non, ce n'est pas ça, mais je fais juste une parenthèse parce que c'est important pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi je veux parler de la coupe de la colère. Lorsque Dieu voit Abraham, Dieu dit à Abraham, c'est Dieu qui prend l'initiative de faire une alliance avec cet homme qu'on appelle Abraham. Il dit, Abraham, prends-moi 5 animaux. 5, c'est le chiffre de la grâce. 5, pas 3, pas 10, pas 6, pas 7, pas 2, 5 représente la grâce. Il prend 5 animaux, coupe-les en deux. Abraham les coupe en deux. Et quand il coupe en deux, qu'est-ce qui se passe? Le sang sort. Et la Bible dit, lorsqu'à un moment un peu plus avancé de la nuit, une fournaise de feu passa entre les animaux partagés. C'était comme ça qu'à l'époque, au temps d'Abraham, on nouait une alliance. C'est ce qu'on appelle une alliance de sang. Une alliance de sang. La vraie alliance, c'est l'alliance de sang. Je répète, la vraie alliance, c'est l'alliance de sang. Ce n'est pas l'alliance où on parle, où on signe un code. Tiens, je te signe ma signature. Non, mon frère, c'est bien ça. Mais ce n'est pas ça l'alliance dont il est question ici. C'est une alliance de sang. Amen. Et c'est Dieu qui passe entre les animaux partagés pour dire, Abraham, j'ai pris l'initiative de l'alliance. Je contracte mon alliance avec toi. Je rentre entre les animaux partagés. C'est pour te dire que l'alliance, elle est signée. Ça, c'était la marque de Dieu. En parenthèse, Dieu dit à Abraham, Abraham, prends des animaux. Les animaux me représente. Les animaux, Abraham me représente. Couplé en deux, Abraham, c'est une image. Je suis. Comme je ne suis pas encore. Le temps n'est pas venu encore à moi pour Abraham. Le temps n'est pas venu pour moi de me manifester en chair. Alors Abraham, en attendant que je me manifeste en chair, en attendant que je m'incarne, Abraham, prends 5 animaux, 5, pas 3, 5, le chiffre de la grâce. Couplé en deux. Abraham prend les animaux, les coupe en deux. C'est comme si Dieu venait de se couper lui-même. Le sang coule. Le sang coule. Amen. Et après ça, Dieu dit à Abraham, voilà ma part de l'alliance. Genèse chapitre 17. Dieu se révèle à Abraham maintenant pour dire à Abraham, toi aussi maintenant, tu dois faire ta part. Parce qu'une alliance, ça se loue à deux. Ça se loue à deux. Abraham, fais ta part. Abraham, oui, prends un couteau, circoncis-toi. Que le sang coule aussi de ton côté. Oh, que le sang de ton côté aussi. Pourquoi? C'est une alliance de sang. Les deux doivent verser le sang. Les deux doivent verser le sang. Il n'y a pas d'alliance à ce niveau-là. Il n'y a pas d'alliance de cette importance. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Les Yakuza, au Japon, quand ils font alliance, ce n'est pas avec les stylos, ce n'est pas avec les crayons, ce n'est pas avec les documents, non. Les Yakuza, genre la mafia, quand ils font alliance, ils prennent un couteau, ils se coupent le doigt. Ils se coupent le doigt. L'autre se coupe le doigt. Et après, ils font ça. Le sang. Dites amen. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Alors, que se passe-t-il? Dieu parle à Abraham. Mais ce n'était qu'une préfiguration de ce qui allait se produire. Pourquoi j'en parle? Parce que beaucoup ne comprennent pas. Et alors, depuis Abraham, Dieu donne par Moïse, plusieurs prophéties, par Esaïe, par Jérémie, par Zacharie, où il dit que le temps viendra où Dieu va venir sous la forme du Messie. Parfois ça me dérange quand on parle de la Trinité, la troisième personne, la deuxième personne. En général, c'est pas que ça me dérange en tant que tel, parce que c'est la vérité. Le problème avec ça, c'est que beaucoup ont tendance à dire, oh il est le premier, oh ça c'est la deuxième personne, c'est la troisième personne. En vérité, quand on le dit surtout pour les gens qui sont un peu faibles à comprendre les choses, parce que en vérité, c'est que le Père et moi, le Père et moi nous sommes un. Dieu n'est pas intéressé à ce qu'on le dise aussi. Troisième personne, deuxième personne, première personne de la Trinité. Ça ne l'intéresse pas. C'est comme si vous me dites, oh toi Yves, âme, Yves, corps, Yves, esprit. Quand tu me dis, je viens chez toi. Oh, Yves, viens à la maison. Tu me dis quoi? Yves, esprit, viens chez moi? Ou Yves, corps, viens chez moi? Tu me dis, Yves, je viens chez toi, je m'appelle Yves. Je suis trinitaire. J'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit. Je suis un esprit, je possède une âme, j'habite dans un corps. Je me déplace. Quand je me déplace, qui se déplace? Les trois, en un. Dites amen. Alors, pourquoi toujours en train de dissocier troisième personne, deuxième personne, première personne? Ça, c'est parce que c'est à cause simplement de la faiblesse de compréhension de certaines personnes. On est obligé de décortiquer. De la même manière que si je pleure, tu me dis, oh Yves, qu'est-ce qui pleure en toi? C'est ton âme, c'est ton esprit, c'est ton corps. Pleure, quand je pleure, ça change quoi? Je pleure, et alors? Amen. Ah, c'est ton âme qui a tout pleurer. Ah, ton corps. Ah, non, pardon. Mais là, je connais ton esprit. Non, frère, ça ne veut rien dire. Alors, arrêtons de diviser Dieu en trois personnes. Oui, il est trois. Et alors, so what? Il est trois, mais il est un. Et ça, mon frère, ma soeur, excuse-moi, ton intelligence est trop limitée pour comprendre ce genre de mystère. C'est un mystère, tu ne peux pas comprendre. C'est un mystère. Dites, c'est un mystère. Dites, c'est un mystère. Le Dieu manifesté. Alors, qui est Christ? Il est Yahweh, il est Jéhovah, il est l'Éternel, incarné dans un corps. Je le dis du Père, parce que le Père et le Fils sont un. Même si, effectivement, je reconnais qu'il y a une petite différence, mais le Père et le Fils sont un. Jésus ne m'a jamais dit de faire la différence entre les deux. Non, il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il est choqué. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne le sais-tu pas depuis longtemps? Le Père et moi, nous sommes. Il aurait pu dire, oh, je vais te montrer le Père, il faut d'abord que j'aille chercher ma Bible. Non! Le Père et moi, nous sommes un. Amen. Alors quand les prophètes dans l'Ancien Testament annoncent la venue du Messie, la venue du Machia, de Christ, ils parlent du Fils de Dieu. Jésus choquait les gens. Pourquoi? Parce que quand il osait parler du Fils de Dieu, il ne faisait que parler de Dieu. Et les Juifs, qui sont plus intelligents que nous autres, comprenaient que lorsqu'il disait le Fils de Dieu, il disait, mais tu blasphèmes, parce qu'il dit, Fils de Dieu. Oh, mais tu es Dieu alors. Il dit, oui. Oh, mais on va te lapider. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, oh, bon, c'est le Fils de Dieu. Bon, mais le Dieu, il est où? Mais non, mon frère. Mais non. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, Paul dit que Dieu a été manifesté en chair. Que Dieu a été manifesté en chair. Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est pas né. Un fils nous est donné. L'enfant, c'est Jésus. Le fils, c'est Christ qui vient habiter dans un corps. Sa première incarnation de Jéhovah, Yahweh, s'incarne dans un corps. L'Éternel, celui qui a délivré Abraham, celui qui a délivré, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte, ce même Dieu vient s'incarner dans un corps. Et il s'appelle Jésus, qui veut dire simplement Yeshua. Yeshua, Dieu sauveur. Dieu qui vient pour sauver. Et quand il vient pour sauver, le problème de l'homme, c'est que l'homme ne comprend pas souvent les mouvements de l'esprit. L'homme ne comprend pas quand Dieu est en train de faire des choses nouvelles. De la même manière qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que Dieu est en train de faire ici quelque chose de nouveau. Beaucoup ne le comprennent pas, ils passent à toi à critiquer, à murmurer. Peu importe, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et les pharisiens, et les sadducéens, et les scribes ne l'ont pas vraiment reconnu. Mais il est venu, et il avait annoncé depuis l'Ancien Testament, que tout ce qu'on faisait, Jésus, la Bible dit qu'en entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu aucun sacrifice, tu n'as agréé aucune offrande. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Ça c'est le Fils, ça c'est Dieu, l'Éternel. Lorsqu'il s'incarne dans un corps, si vous revenez sur la terre, il dit, tous les sacrifices qu'ils ont fait, même ceux qui ont été les plus justes, même ceux qui ont fait le plus grand bien, même ceux qui ont donné leur vie pour les gens, ils étaient tous pécheurs. Ils étaient tous corrompus. Parce que Dieu a dit dans Matthieu, dans le livre de Romains. Romains chapitre 3. Chapitre 3, c'est pas la peine de lire, notez-le simplement. Verset 9. À la fin du verset 9. Tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Peu importe celui qui disait, oh, j'ai obéi à toute la loi, je suis juste. Il n'y en a pas un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Ça, c'est le verdict de Dieu. Je ne sais pas c'est quoi ton verdict. Ah, mais moi, j'ai rien fait. J'ai pas tué quelqu'un. J'ai pas volé. J'ai pas machin. Oh, j'ai pas fourni, fait comme il a commis l'adultère. Fornication. Mon frère, c'est bien pour toi. Mais moi, je connais le verdict de Dieu. Il y a une différence. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ma façon de penser n'est pas votre façon de penser. Vous, vous dites, ah, mais moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai tué personne. Ah, moi, je suis machin. Dieu dit, pas même un seul. Il n'y a pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Sans aucune exception. Aucune exception. Voilà le verdict de Dieu. Et le verdict le plus terrible, c'est comme Paul dit dans Romains 3, 23. Il dit, tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont péché. Ils ont loupé le but principal, le but essentiel, le but primordial pour lequel Dieu les avait créés. Ils ont tous loupé la cible. Ils sont donc privés de la présence du Père. Or, la présence de Dieu, c'est la source. C'est ça qui nous tient. Et si tu n'es pas rattaché à ta source, tu meurs, tu te dégrades, tu te souilles. Tu as besoin de ta source. Amen. Alors, catastrophe des catastrophes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ils sont privés de la présence de Dieu. Alors, mon frère et ma sœur, qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Dieu parle depuis longtemps de la coupe de sa colère, de la coupe du vin de sa colère, de la coupe du jugement. Et Jésus, quand il arrive, il sait pourquoi il est venu. Il a dit, pouvez-vous boire cette coupe que je vais boire? Est-ce que tu peux boire la coupe? Non, tu peux pas. Il dit, moi, je suis venu pour une chose, pour boire cette coupe. Mais alors c'est quoi, mon frère, cette coupe? C'est la coupe que personne n'a pu boire. C'est la coupe que Dieu seul pouvait boire. Je répète, c'est la coupe que seul Dieu lui-même pouvait boire. Mais pour que Dieu puisse boire cette coupe, il a donc fallu que le Dieu des cieux, que le Dieu de la création, que celui qui est dans le commencement, qui s'appelle la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Celui qui a créé toutes choses par sa parole. Celui qui soutient toutes choses par sa parole. Il a fallu que le Logos s'incarne dans un corps. Il s'appelle Dieu. Fils de Dieu. On l'appelle fils de Dieu. On l'appelle aussi fils de l'homme. Et beaucoup ne comprennent pas. Mais il est né chez Marie. Mais moi je ne comprends pas. Mais il est le fils de Carpente. Ils ne comprennent pas que cet être-là, il est différent de tous les autres. Il n'est pas, en guillemets, normal. Non, parce qu'il n'est pas normal, puisqu'il n'est pas comme vous. Il ne peut pas être normal. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, incarné, manifesté en chair. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20, Jean dit, ce Jésus-Christ-là, il est la vie éternelle, il est le Dieu véritable. Il dit Jésus, vous entendez Jésus, il est le Dieu véritable. Alors eux, ils ne le comprenaient pas. Alors quand il vient, mais que se passe-t-il quand il vient? Dieu prend un corps, miracle, catastrophe, surprise. Dieu prend, on peut le toucher, on peut le toucher. Dieu t'habite où? Le fils de l'homme n'a pas l'endroit à reposer sa tête. Toi viens, suis-moi. Miracle. Est-ce que c'est bien Dieu? Est-ce lui le Messie? Oh, il savait que le Messie c'était le Christ. Oh, il savait que le Christ c'était Dieu. Amen. Alors, il marche. Je vous disais la semaine dernière, il n'est pas venu pour guérir les gens. C'est bien, il a fait ça parce que Dieu est bon. Quand il voit ce peuple-là qui a l'air abandonné, qui a l'air laissé pour compte, qui a l'air méprisé, il dit, je te guéris, je te guéris, je te guéris. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour partir là-bas. Où? À la croix. Et dans Matthieu chapitre 20, tout à l'heure qu'on a lu, il le dit bien, il leur dit bien, je suis venu pour aller à la croix. Le fils de l'homme va être méprisé, va être crucifié, va être battu. Amen, il le sait. Maintenant le problème, c'est que quand il arrive dans le jardin de Gethsémané, mais je fais juste une parenthèse pour vous dire une chose qui est importante. Lorsque Dieu avait conclu l'alliance avec Abraham, lorsqu'il avait fait l'alliance avec Abraham, il avait dit à Abraham, tu me représentes par 5 animaux. Alors maintenant, Dieu qui se fait un corps. Mais pourquoi dois-tu se faire un corps? Parce que la même alliance qu'il a faite avec Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 15, chapitre 17, il dit maintenant, je dois étendre cette alliance. Je dois étendre l'alliance à l'humanité, à tous les hommes, à toutes les nations. Abraham, là c'est juste une alliance pour toi. Et tu vois, non, c'était juste pour toi. Hein? Ok, la nation qui naîtra de toi. D'ailleurs, le nombre de nations qui naîtra de toi, il y aura aussi les Juifs, n'est-ce pas? Mais il y aura aussi un côté qui n'est pas juif. Amen. Parce que la Bible dit que les descendants d'Abraham sont les descendants par la foi. Ce sont ceux qui ont cru en Dieu, qui sont les descendants d'Abraham par la foi. Alors Dieu descend et quitte son trône. Il enlève ses habits royaux. Il enlève toute sa gloire. Il enlève, il se dépouille. La Bible dit qu'il s'est abaissé. Dieu s'est abaissé. En plus, il naît dans une étable. C'est pas possible. Juste pour montrer à quel point nous devons être humbles et simples. Et il descend. Et il a un corps. Son but, c'est quoi? C'est de simplement faire en sorte que ce qui a été fait au temps d'Abraham à l'époque se refasse à son époque à lui. Coupé. Il faut qu'il soit coupé. Il faut qu'il coupe une alliance. On dit même pas alliance, on dit couper l'alliance. Vous vous rendez compte? Birit veut dire couper l'alliance. On coupe l'alliance. Dites Amen. Dites Amen. On coupe l'alliance. Et son but, c'est faire exactement la même chose. Partir à la croix, pourquoi? Pour être lui aussi coupé. À la seule différence, c'est que, avant, il avait demandé à Abraham de se circoncire. Il avait dit, Abraham, tu as une partie à faire. C'est une alliance entre toi et moi. Écoutez-moi attentivement. Il avait dit, Abraham, c'est une alliance entre toi et moi. Abraham, je me coupe au travers des animaux. C'est une représentation symbolique. Tu te coupes aussi. Et là, Dieu se manifeste en chair. Il dit, je joue les deux rôles. Abraham, tu ne coupes pas, c'est moi qui me coupe. Écoutez-moi bien. Il est Dieu manifesté en chair. Alléluia. Il est Dieu manifesté en chair. Il est là pour faire quoi? Pour se couper. De la même manière. Il représente Dieu, le Fils de Dieu, Christ. Le Fils de Dieu s'est pris un corps. Dieu s'est pris un corps. Écoutez-moi bien. Il est lui-même Dieu. Il est lui-même homme. Vous comprenez? Il est Dieu et il est homme. Il n'a plus besoin de quelqu'un d'autre pour faire une circoncision. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la circoncision, c'est lui-même qui se la fait. Dans quoi? Son corps. Lorsqu'il a vu Thomas, Thomas, touche là. Qu'est-ce qu'il vient montrer? Voilà les marques des clous sur mes mains. Ce sont les marques de la circoncision. Moi, Jésus, je porte dans mon corps les marques de la circoncision. Je les porte. Je suis Dieu, je suis homme. Je fais exactement les deux fonctions. Je n'ai plus besoin de l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas m'aider. Parce que l'homme, je suis obligé de tout faire pour lui. Comme un père qui dit, je vais prendre soin de mon fils, puisqu'il ne sait pas prendre soin de lui-même. Je vais tout faire. Je veux faire les deux en même temps. Amen. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la semaine dernière, on a vu que l'arrivée dans le jardin de Gethsémané, le pressoir, la détresse, la grande détresse. Il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire. Quelque chose qui n'était même pas du tout prévu. Et je suis certain qu'il n'avait pas du tout pensé à ça. que Dieu commence à contester, ou commence à remettre en cause, ou commence à négocier avec le Père qui est assis sur le trône. Dieu est au trône, Dieu est là. Alléluia. Alors il lui dit, Père, si c'était possible, éloigne cette coupe de moi. Mais mon frère, ma sœur, pourquoi est-ce qu'il a autant de difficultés à boire cette coupe? Parce que cette coupe, c'est une coupe, c'est la plus terrible des coupes. Et c'est cette coupe-là que depuis l'Ancien Testament, tous les sacrifices n'ont pas su satisfaire le cœur de Dieu. C'est cette coupe-là, c'est pour cette coupe-là qu'il n'y a absolument rien à faire. C'est pour cette coupe-là du péché, de la rébellion, de l'injustice, du meurtre, de l'adultère, des calomnies, des méchancetés, des meurtres, tout ce qu'on peut imaginer était contenu dans la coupe. Là, ce n'est pas le péché d'une seule personne, non. Déjà, moi-même, pour porter le péché d'une personne, c'est dur. C'est dur. Mon frère, ma soeur, quand Dieu est en train de te frapper pour le péché de quelqu'un d'autre, c'est terrible. Beaucoup reçoivent les malédictions. Beaucoup reçoivent les malédictions des autres. Ça te foudra, n'est-ce pas? Alors imaginez que si tu es en train de recevoir les malédictions de toute la terre, sur une seule personne. Les gens souffrent, la sorcellerie, le vaudou, tout ce qu'on peut imaginer. Ah, les démons, ah machin, ils en souffrent terriblement, oui ou non. Dites amen. Mais bien sûr, quand vous jetez un sort, vous souffrez. Alors imaginez que là, ce n'est pas un seul sort, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 1 milliard, mais c'est toute l'humanité entière qui se déverse en termes de malédiction sur une personne. Mais attendez, qu'est-ce que vous allez dire de cette personne? Jésus le savait. Et c'est pourquoi c'était dur. Alors, la dernière fois, j'ai insisté sur la prière. Ça, c'était la semaine dernière. La prière pour le fortifier, pour qu'il fasse la volonté du Père. Mais aujourd'hui, je vais simplement vous dire que cette coupe-là, il fallait qu'il la boive. Et il savait qu'il allait la boire, ça allait affecter et son esprit et son corps. Mais il savait que c'était la volonté du Père qu'il la boive. Catastrophe des catastrophes. Lorsque vous regardez Matthieu, allez dans Matthieu. À partir du verset 27. Matthieu, croyez-moi, les soldats romains étaient connus pour leur perversité. Les soldats romains, à l'époque, étaient connus pour leur barbarisme. Et pour leur barbarie plutôt. Ils étaient connus pour être des soldats extrêmement violents. Les soldats romains étaient connus pour être des gens tellement méchants que lorsqu'ils s'en prenaient à toi, tu n'avais même pas de chance de réchapper ou de faire quoi que ce soit. La Bible dit que lorsqu'il l'avait livré, il y a tellement de choses à dire. Mais écoutez, au verset 27, la Bible dit que les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils s'assemblèrent autour de lui, toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Ils l'ont mis nu et ils lui ont couvert d'un manteau. Mais comme quoi l'homme en général, L'homme ne sait même pas ce qu'il fait des fois. Ils étaient simplement en train de tout ce qu'ils ont fait, là, du verset 27 au verset 32. Ils n'ont fait que préfigurer ce que Jésus était en vérité. Ils l'ont pris. Ils lui ont enlevé ses vêtements. Ils lui ont mis un manteau. Un manteau royal. Un manteau d'une couleur écarlate. Or, la couleur écarlate, c'est le rouge écarlate. Le rouge, c'est la couleur du sang. Le sang, c'est la couleur du péché. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Dieu compare le sang, la couleur du sang, à la couleur du péché. Il dit que la couleur du péché, c'est le rouge, c'est le sang. Alléluia. Et là, en lui mettant ce manteau, il ne faisait que préfigurer le manteau qu'il prenait effectivement pour prendre sur lui le péché de l'humanité, du monde. Dites amen. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils mirent. Déjà là, il prend une couronne d'épines. La couronne d'épines, pour symboliser son aspect royal. Le problème, c'est que tout ce qu'on lui met, lui fait couler du sang. Et après, il prendra un roseau. Il prit un roseau dans la main droite. Et il s'agenouille devant lui. Et il se moque de lui. Et il crache sur lui. Et il le frappe sur la tête. Déjà qu'il a des épines aux pieds. Déjà qu'il a des épines sur la tête. Et il se met à le frapper. Et à rigoler, et ça, excusez-moi, je m'arrête. C'est une des scènes les plus catastrophiques de toute l'histoire de l'humanité. Je vais vous dire une chose. Les scènes catastrophiques, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, pour moi, la catastrophe, c'est lorsque je vois celui qui a créé toutes choses. Celui qui est maître de toutes choses. Il savait que ça allait lui arriver. il a lutté pour ne pas que ça lui arrive dans Gethsemane, tellement c'était dur. Mais comme il priait, il était capable de faire la volonté du Père. Il dit donc, Père, que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Dans l'angoisse la plus totale. Que ta volonté soit faite. Autrement dit, je suis venu après tout pour ça. Alors, je vais boire cette coupe qui est tellement pleine de malédiction, qui est tellement pleine de poison, qui est tellement pleine d'impureté. Je veux boire. Et figurez-vous, c'est la scène pathétique où le maître de la création est à la merci de sa créature. Et il savait qu'il allait arriver un temps où il allait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, c'est la première fois qu'il appelle Dieu mon Dieu. Il n'appelle plus Père, il appelle mon Dieu. Il ne dit plus le Père et moi nous sommes un, il appelle Dieu, comme tout le monde. Parce que le Père a détourné sa tête. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était sous la croix, Jésus, que tu chantes souvent sans le connaître, boude souvent alors que tu es dans les difficultés. Ah, je ne prie plus. Ah, je ne fais plus rien. Ah, j'en ai marre. Ah, ignorant, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, écoute-moi. Ce Jésus, étant à la croix, il a tout pris. Dieu, le Père, a trouvé quelqu'un, c'est-à-dire lui-même. Il a trouvé quelqu'un, c'est-à-dire lui-même, pour satisfaire ses exigences. Il a trouvé quelqu'un, c'est-à-dire lui-même, pour mourir à la croix. Parce qu'il savait que Moïse, que Daniel, que Jérémie, que personne ne pouvait faire ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait boire cette coupe-là. Déjà, il te dit, déjà, toi, quand tu en as 10 qui sont après toi, tu n'en peux plus. Comment? Parce que c'est toute l'espèce humaine qui est sur toi. Alors, quand Dieu regarde, il regarde son fils avant qu'il ne soit chargé de péché. Et quand le fils prend la coupe, il la boit. Le Père, c'est comme s'il y a un éclair qui part sur lui. Il est foudroyé. Il est frappé. Jésus est frappé. Par qui? Par le Père. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi il est frappé par le Père? Parce que le Père a dit, je frappe là, je libère là. Je tue ici, je donne la vie là. Je maudis ici, je bénis là. Mon frère, comprends-moi, comprends l'importance de ce qu'on appelle la croix. Il y a trop de choses à dire sur la croix et je ne peux pas le dire comme ça aujourd'hui. Je veux simplement vous faire comprendre une chose, mon frère, ma sœur, que lorsque Jésus dit, mon heure est venue, le prince de ce monde sera jugé. Il dit, celui qui fait tout, c'est le dominateur de ce monde, celui qui a créé autant de dégâts sur la terre, c'est lui-là qui va être jeté dehors. Pourquoi? Parce que voici, je suis venu pour vous redonner la clé. Je suis venu pour ne pas que vous soyez laminé, dominé, mais pour que vous repreniez la position que vous aviez perdue au travers de Adam. Alors c'est Jésus qui est sur la croix, qui se fait insulter. Et ce qui me fait mal des fois, c'est de voir comment les gens se coulent la tête et lui disent, si tu es Dieu, descends de la croix et nous croirons. Parfois je suis là, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas descendu? Il y a une seule réponse, c'est l'amour. L'amour. Il n'y a rien de plus terrifiant. Nous, c'est tous les hommes, quand on conduit, quand quelqu'un te fait un bras d'honneur, ou quelqu'un t'insulte pendant que tu es en train de conduire tranquillement, tu as envie d'accélérer, de le suivre, et de le frapper. Oui ou non? Les bros, répondez. Que les bros répondent, amen. On s'irrite, on se fâche. Si je conduis. Alors, imaginez-vous, quelqu'un te défie. Les gens qui passent te défient. Tu as tout pouvoir. Tu as des légions et des légions d'anges à tes services. Tu es là cloué comme un maltraiteur, comme un brigand, comme quelqu'un de rien du tout. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, celui en qui on n'a trouvé aucune faute, c'était le seul être humain le plus parfait de l'histoire de l'humanité toute entière. Celui en qui on n'a rien trouvé. La Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché. Autrement dit, Dieu a mis tout sur lui, afin que nous soyons déclarés justes, non coupables devant Dieu. C'est pour ça, mon frère, que lorsqu'il était sur la croix, c'était un spectacle terriblement désolant. On lui dit, si tu es fils de Dieu, maintenant descends de la croix. Sauve-toi toi-même. Tu as sauvé les autres. Sauve-toi toi-même. C'est une parole qui est dure. Vous ne réalisez pas quand vous méditez la parole. C'est une parole qui est dure. Sauve-toi toi-même. Et il sait qu'il a le pouvoir. Il sait qu'il a la capacité. Évidemment, il est la parole incarnée. Mais il est là. Il subit. Il subit. Et il subit. Il ne répond pas. La Bible dit, il n'avait rien. Il n'avait rien à répondre. Il ne répondait pas. Calomnié, insulté, maltraité, injurié, il ne rendait point d'injure. Alors que toi, tu passes ton temps à rendre, à te défendre, à te justifier. Lui, il ne passait pas son temps à se justifier. Il savait qui il était. Et il savait ce qu'il était venu faire là. Amen. Alors il ne rendait pas en frère. Et la Bible dit, il est resté sous la croix jusqu'à ce qu'il expira. Christ, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 15, au verset 19, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La seule chose qu'il a tenue là, c'était l'amour. C'était son amour. Parce qu'il savait que s'il descendait, c'était foutu. Le plan avait échoué. Amen. C'est pour ça que lorsque les Grecs sont venus le voir, pour dire à Philippe, nous voulons voir Jésus. Tout de suite, il sait, ah, c'est bientôt l'heure. Parce que si les païens me demandent, c'est donc le moment où je vais bientôt partir pour toucher aussi les païens. Amen. Alors, il leur dit, et la réponse qu'il donne n'a rien à voir avec ce que Philippe et André lui ont dit. Maître, et les Grecs étaient très riches. Donc, Philippe et André, ils arrivent. Maître, les Grecs veulent te voir. Les Grecs, ils ont le pognon, ils ont les sous. Seigneur, ils ont les sous, les Grecs. Et lui, il est là. Et il dit une phrase qui n'a absolument rien à voir. Il dit, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt. Oh, Seigneur. Il est simplement temps de leur dire, l'heure est venue pour moi maintenant de partir. Si je ne meurs pas, il n'y aura pas de récolte. Si je ne meurs pas, Dieu ne pourra pas habiter dans le cœur de tous et ses enfants. Parce que pour l'instant, Dieu est en moi seul. Mais je dois mourir afin que Dieu puisse avoir beaucoup d'enfants, des fils et des filles, des enfants en abondance. Je dois mourir. Pourquoi? Afin que toute l'humanité soit déclarée non coupable, c'est-à-dire justifiée, c'est-à-dire encore déclarée juste aux yeux de Dieu. Que malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré tes péchés, malgré tout ce que tu as pu faire, tout ce qu'on a pu te faire, tout, il dit, je te déclare non coupable devant moi. Et ça, c'est mon standard de justice. Et comme c'est moi le chef, tu as intérêt à comprendre ce que je dis, parce que si tu ne comprends pas comme je le dis, tu vas t'attirer des pétards. Amen. Et dis-moi, il faut que je meure, moi le fils de l'homme, afin que le Saint-Esprit vienne habiter dans le cœur du croyant. Et Dieu dit simplement que la coupe de sa colère, la coupe du jugement, la coupe du péché, on pourrait raconter des heures là-dessus, a été bue par un seul homme, Jésus Christ de Nazareth. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, moi je ne peux pas croire que quand on parle de Jésus, on dit tout au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quand on parle, oh la grâce, la grâce, la grâce, on ne comprend même pas ce que ça veut dire, la grâce de Dieu. On ne comprend plus, cette génération ne comprend pas ce que veut dire the grace of God, la grâce, la faveur de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu dit que je le frappe, lui, afin que vous soyez libérés. Que si le Christ vous a franchi, alors vous êtes libre réellement. Amen. Et c'était le gros problème que l'apôtre Paul avait d'expliquer simplement ces choses de l'évangile. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, moi je suis là pour parler de la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Sagesse qu'aucun des grands ou aucun des princes de ce monde n'a connue. Parce que s'ils l'avaient connue, ils n'auraient jamais, jamais crucifié le Seigneur de gloire. Autrement dit, si le diable savait, s'il avait même soupçonné que le fait que cet homme qu'on appelait Jésus en train de porter sa croix, en train de souffrir, en train d'être méprisé, hein, calomnié, injurié, craché sur lui, tout ce que vous voulez. S'il était content, oui, oui, faites-le souffrir. Mais s'il savait, s'il s'en doutait simplement un tout petit peu, il n'aurait jamais crucifié Jésus-Christ de Nazareth. S'il savait que le fait de le frapper, le fait qu'il meure, qu'il donne sa vie, ça signifiait la libération. Ça signifiait la délivrance. Soterio, sozo, soter, le salut. Ça signifiait simplement. Et lui, vous savez, Satan était content. Tant que Dieu frappait les hommes, Satan était content. Mais vous comprenez pas. Parce qu'il avait un droit légal pour frapper, puisqu'il était sur le péché. Là où il y a le péché, le diable, il est, oh, super, il me régale. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Mais si Satan avait soupçonné une seule seconde, qu'en frappant là, tout le péché allait t'attirer là, et que ici, toi, moi, toi, elle, tout le monde, on serait libre. Il aurait dit, oh non, surtout pas. Alors, laissez-le libre. Ne le tuez pas, ne le frappez pas, laissez-le comme ça. Comme ça, on va tous pouvoir les frapper. On va tous pouvoir les détruire. La Bible dit que le diable vient pour dérober, pour tuer et pour détruire. Dieu a permis qu'il le fasse sur une personne. Jésus. Afin que toi, mon frère, afin que toi, ma sœur, tu aies la vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que la prédication de la croix, autrement dit la prédication de la mort de Christ sur une croix, est une folie. C'est-à-dire c'est une absurdité. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. C'est stupide. Écoutez-moi bien. Ce qui a l'air stupide devant les hommes est sage devant Dieu. Le juif, il dit, moi, je veux voir des signes miraculeux. Le grec dit, moi, je veux voir la sagesse. Paul dit, moi, tout ce qui m'intéresse, je prêche Jésus et Jésus crucifié. Pourquoi? Parce que Dieu a été manifesté en chair pour mourir à ta place, à ta place, à ta place. Et si tu ne comprends pas ça, mon frère, c'est bien dommage. Parce que le but de Dieu, c'était de te sauver, c'était de te mettre en sécurité, de te délivrer, de te bénir, de te combler de tellement de grâce que tu n'aurais pas pu avoir autrement que si lui-même, il ne s'était pas pourvu un corps, il n'était pas allé à la croix lui-même pour payer le prix. Et le sang qui a été versé, c'était le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'on appelle le sang de Jésus le sang précieux de l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Dieu. Parce que c'est le sang de Dieu qui a été versé. Et comme si ce n'était pas suffisant, lorsqu'il était déjà mort, la Bible dit, un soldat romain vint avec une flèche. Et qu'est-ce qu'il fait, mon frère, ma sœur? Il voit Jésus déjà crucifié. Il prend sa flèche et il le perce. Il le perce sur le côté. Or, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, la Bible dit, lorsque Dieu voulait créer Ève, il couche Adam. Et de son côté, en français on dit de sa côte, c'est pas de la côte, en hébreu c'est pas la côte, en hébreu c'est ça, bon, un côté de lui, d'un côté de lui, il tire la femelle, oui ou non? Amen. De la même manière, quand Adam tire la femelle, il tire la femelle de celui qui est le mâle pour sortir sa femme, son épouse, de la même manière. Lorsqu'on a percé sur le côté, la Bible dit qu'il sortait de l'eau et du sang. Le sang de Dieu était versé pour la rédemption, pour le rachat de plusieurs. Le sang coulait, coulait, sans arrêt, le sang a coulé. C'est le sang de Dieu qui a été vidé. Le sang précieux de Jésus a été versé. Et quand il a percé, de la même manière que Dieu avait tiré Ève, de la même manière, Dieu tire son épouse, qu'on appelle l'église, il tire, de son côté là, il tire une femme, qu'on appelle l'église. Toi et moi, baisse un peu s'il te plaît mon frère. Toi et moi. Amen. Et ça, c'était pas prévu pour beaucoup de personnes. Mais Dieu a tiré l'église qui était en Jésus. Et l'église, c'est toi, et l'église, c'est moi. On ne vient pas de n'importe où. On a été tiré de lui. Son côté a été percé. Le sang a versé,
Le sang symbolise simplement la rédemption. Le rachat qu'il venait de faire. Parce que la Bible dit que sans effusion, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y avait aucun autre moyen. C'est pour ça que les Juifs, aujourd'hui, pour finir, les Juifs étaient scandalisés. Parce que les Juifs disent, mais c'est pas possible. Mais le Messie ne doit pas mourir. Mais le Messie, c'est Dieu. Comment veux-tu que Dieu meure? Comment veux-tu que Dieu verse son sang? Ils n'avaient pas compris la parole. Certains savaient, beaucoup ne savaient pas, que Dieu, le sang de Dieu, c'est le sang qui coulait lorsqu'on le perçait. C'est le sang qui coulait lorsqu'on le frappait. C'est le sang qui coulait lorsqu'on mettait des épines. C'est le sang qui coulait systématiquement tout le long du parcours jusqu'à la croix. Et sur la croix, c'est le même sang. Le sang est le sang de Dieu. Et sans ce sang, nous ne serions pas là ce matin. Alors, pour finir, mon frère, vous savez, moi je reconnais une chose. Et je ne crois pas, et je suis persuadé, que nul ni personne ne pourra venir me dire un jour, Yves, j'ai donné le meilleur enseignement sur l'amour de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas le comprendre. Je ne peux pas expliquer. Et je ne peux pas comprendre. Mais ce que je peux comprendre, c'est qu'il m'aime. C'est qu'il m'aime. C'est qu'il m'aime. C'est qu'il m'a aimé le premier. Alors quand on chante, I love you Lord. I love you. I love you. Because you care for me. Parce que tu prends soin de moi. Tu n'étais pas obligé. Mais tu l'as fait quand même. Tu aurais pu te détacher de la croix. Mais tu es resté. À cause de l'amour. Mais c'est pour cela, mon frère, que nous nous retrouvons ici le dimanche. Nous nous retrouvons ici tous les jours que Dieu permet par sa grâce. Et je vous assure, je n'aurai jamais honte d'afficher mon appartenance à ce sauveur. Je n'aurai jamais honte de l'évangile. Parce qu'il est mort pour moi. Mais vous comprenez pas, il est mort pour moi. Et vous savez, ça s'explique pas. Ça se vit. Même quand ça va mal. Seigneur, quand je pense à la croix, quand je pense que la créature, des simples soldats, t'ont massacré. Et vous savez, ils l'ont défiguré. Il était méconnaissable. Ils l'ont tellement frappé. Il était, et quand on le voyait, la Bible dit, son aspect n'avait rien pour plaire au regard. Tellement il était méprisé. Tellement il était frappé. Il était méconnaissable. Lui, Dieu de la création. C'est une folie, c'est une absurdité. Peut-être. En tout cas, ça en a l'air. Je ne comprends pas. Mais mon frère, ma sœur, je veux simplement te dire que c'est réel. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une religion. Non. Ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire d'un Dieu qui aime. Qui aime simplement et qui crie, mon enfant, viens, je t'aime. C'est simplement un cœur qui a assoiffé d'amour. Il veut qu'on lui dise qu'on l'aime parce qu'il nous aime tellement. Et il n'y a rien de plus formidable que pour un père qui aime ses enfants d'entendre l'enfant qui lui dit, père, je t'aime. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Ça fait plaisir à un parent. Et Dieu est ce Père qui a tellement aimé le monde qu'il a donné gratuitement son Fils unique afin que quiconque croit simplement en lui, qui a simplement confiance en lui, qui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et si tu ne le crois pas, mon frère, ça ne change rien. Parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est réel. Je ne suis pas là pour parler de la résurrection. Je parle simplement de cette couple-là qui était si horrible, si catastrophique, si terrifiante, que Dieu a dû boire. Je dis bien que Dieu a dû boire. Aucun homme n'aurait pu la boire si ce n'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alors ce que je veux dire simplement qu'on fasse ce matin, moi j'ai envie de tout mon cœur, qu'on chante simplement cette chanson qu'on a chantée. I love you. Et je simplement, mon frère, si tu comprends l'importance de l'amour du Père,
Mon frère, je t'en supplie. Moi, je voudrais voir toute l'église debout. Que toute l'église se tienne simplement debout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mots pour exprimer l'amour de Dieu. Je vous assure, il n'y en a pas. Et on ne pourra pas faire de serment là-dessus. Alors mon frère, ma sœur, je conclue. Comprends. Comprends, mon ami, l'amour du Sauveur. Comprends l'amour du Père. C'est pour toi qu'il est mort. Il n'était pas obligé, mais il a fait pour toi. Mais comment peux-tu t'en priver? Comment peux-tu accepter d'être aussi médiocre? Comment peux-tu te contenter de si peu, mon frère, ma sœur? Laisse le péché, s'il te plaît. Laisse le péché. Repends-toi. Et viens simplement à Jésus. Yes, oh God. Nous te sommes reconnaissants, Père. Et je prie pour mon frère. Et je prie pour ma sœur. Et je prie pour notre visiteur ou visiteuse. Et je prie pour cet enfant qui est dans l'église. Je prie pour Paris. Je prie pour l'Île-de-France. Je prie pour la France. Afin qu'il sache. Afin qu'il découvre la grandeur de Dieu. La grandeur de l'amour insondable de Dieu. Qui n'a pas épargné lui-même. Il ne s'est pas épargné pour nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux de quelqu'un ou de quelqu'une ce matin. Pas seulement ici, mais dans les alentours. Je prie, Père, que ce monde comprenne, Seigneur, qui tu es. Toi, Jésus. Toi, Jésus. Toi, Jésus. Bouleverse la vie de mon frère, s'il te plaît. Et que notre vision de Dieu change ce matin. Que notre perception de Dieu change ce matin. Parce que voici que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde que tu as donné, Seigneur. Et nous, pour donner, on n'arrive pas à donner, Seigneur. On ne comprend pas l'importance de donner de notre temps. Donner de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes, Seigneur. Mais nous voulons te dire ce matin, Seigneur, que nous avons compris, Seigneur. Et nous voulons simplement que nos vies te glorifient, Seigneur. Et combien tu es un Père formidable, un Père merveilleux, un Père redoutable, un Père qui aime simplement, Seigneur. Merci de nous révéler simplement ton cœur, Père. Nous ne voulons pas, Seigneur, une démonstration de ta puissance ce matin. Non, Seigneur. Nous voulons une révélation de ton cœur ce matin. Nous ne voulons pas des signes et des prodiges, Seigneur. Nous voulons une révélation du cœur de Dieu ce matin, Seigneur. Une révélation personnelle et individuelle, Seigneur. Du cœur même de Dieu, Seigneur. Nous te supplions. In the name of Jesus. Que quelqu'un dise amen. Alléluia.